France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
L'homme est âgé de 89 ans. Il a longtemps été maire de la ville de Hove, au sud-est de l'Angleterre. Il vit maintenant dans une maison de retraite dont il est supposé ne pas sortir. Pourtant, jeudi 5 juin 2014, Bernard Jordan décide de fuguer. Dès le début de la soirée, le personnel de la maison de retraite s'aperçoit de sa disparition et donne l'alerte. La police du Sussex fouille toute la zone, vérifie auprès des hôpitaux, des compagnies de bus et de taxi, sans rien trouver. Entre-temps, le vieil homme a épinglé sur sa chemise toutes ses médailles et décorations militaires. Puis il a rejoint en douce un bus de vétérans qui se rend à Ouistreham en Normandie. Cet ancien officier de la Royal Air Force veut assister aux commémorations du débarquement en Normandie. Inscrit trop tard, empêché, l'histoire ne dit pas exactement pourquoi Bernard n'a pas été autorisé à se rendre au centenaire. Le soir même, la maison de retraite reçoit un appel assurant que le pensionnaire se porte bien et qu'il rentrera en toute sécurité une fois les cérémonies terminées. Le lendemain, les tabloïds anglais titrent « La grande évasion ». Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, ce sont deux autres histoires d'évasion et de fugue par Stéphanie Thomas.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ça fait peur. Hein. Enfin, je pensais vraiment que... Ben, que j'allais plus le retrouver. C'était fini. Je me suis dit, ça arrive aux autres, et ben aujourd'hui, c'est mon tour. Ouais, j'ai eu peur, vraiment. Ouais. Et puis, d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai eu, une douleur que je connaissais pas. Mais ça m'a paralysé le cœur, j'arrivais plus à respirer. Les gens disaient, prenez votre souffle. Hein. Je lui ai dit, écoutez, j'arrive plus à respirer. Ça m'a jamais arrivé, hein. Pourtant... Là, je sais ce que c'est la douleur, mais la vraie douleur. Puis au bout de 2 heures, il me rappelle, il me disait, on l'a trouvé, mais à Lyon. Alors dans ma tête, je me suis dit, peut-être qu'ils essayent de me punir un petit peu, j'aurais dû servir un peu plus les enfants. J'ai pris dans ce sens-là. Puis finalement, non, c'était le chef de gare, il m'a dit, non, votre enfant, il est là, il est en train de faire un dessin, colorier un petit train, avec la casquette, le sifflet, une vraie casquette, hein, et un vrai sifflet, hein. Non, pour ça, ils étaient cool. Hein.
Vous êtes allé le chercher à Lyon?
Oui, à la part Dieu, oui. À 11h du soir, hein, exactement. J'ai réveillé un de mes frères, comme j'ai pas la voiture. Il m'a accompagné jusqu'à la part Dieu le chercher. Et lui, il est venu avec les chefs de gare, tout content. Qu'ils l'ont bien apprécié. Oui, oui. Il leur a dit comment il s'appelait, son père comment il était. Moi, je pensais qu'ils auraient dû le gronder un peu. Lui dire que c'est pas bien. Puis du coup, non, il était fier. Ah non, papa, hein, le train, c'est bien qu'on est seul. Hein. Et du coup, j'ai pas osé. Enfin, sur l'instant, je l'ai pas puni parce que c'était à 11h du soir, je l'ai cherché. Alors du coup, je l'ai mis au lit. Puis le lendemain, par contre, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était grave ce qu'il a fait. Quoi. J'étais inquiet, ça m'a fait mal au cœur. Enfin, de lui faire comprendre, de lui faire ressentir la douleur que j'ai eue.
Hans a 6 ans, il passe l'été avec ses grands-parents à la Tour du Pin dans l'Isère. Ce jour-là, en fin d'après-midi après le goûter, il descend avec sa grande sœur pour jouer au pied des immeubles. L'endroit est calme et ombragé, et il fait beau. Hans joue avec les enfants de son âge, mais l'un d'entre eux refuse tout d'un coup de lui prêter son petit train. Alors, contrarié, Hans décide de fausser compagnie à sa sœur. Il traverse la ville à pied, tout seul comme un grand, et part à la gare.
Je m'appelle Célia et je suis en CM1. J'ai 9 ans, je suis née à Bourgoin-Jallieu et mon frère est né à une ville qui se trouve à Clamart. Ça se trouve à côté. À Clamart, ça se trouve à peu près. Ouais, à Paris à peu près, donc tu vois. Et je sais que mon frère, il aime vachement bien les trains parce qu'un jour, il m'a dit qu'il voulait partir au parc de la Tête d'Or. Tout seul pour visiter.
Comment tu t'appelles?
Hans.
Pourquoi t'as voulu aller voir le train ?
Je m'ennuyais chez mamie. Je voulais prendre le train et j'ai parti.
Mais dis-moi, tu connais le chemin d'ici pour aller à la gare ?
Bah oui.
T'es allée tout seule ?
Oui.
En marchant ou en courant ?
En courant.
Est-ce que t'as regardé à gauche et à droite ?
Non. Je voulais prendre le TGV. Parce que voilà rien en plus. Je vais aller au parc. Au parc de la Tête d'Or.
T'es montée dans le train et qu'est-ce que tu as fait ?
Le contrôleur, était gentil avec moi.
C'est toi qui le gardais ?
Oui, on jouait dehors et puis je suis montée et j'ai dû l'oublier qu'il était avec moi. Parfois ça m'arrive, mais c'est pas toujours que ça arrive. Il s'est passé qu'il a dû disparaître, mais heureusement que personne ne l'a attrapé ou l'emmené parce que il a monté les escaliers, il a descendu avec il a pris la passerelle. Enfin, avant, il a dû entendre la destination et il a vu le premier train. Alors, il est monté dessus et il a fait en direction. Pour moi, j'étais vraiment triste. J'arrivais pas à fermer l'œil de la nuit. Pour moi, c'était vraiment un suspense. Puis mon frère, il est prématuré. Mais ça veut dire quoi, prématuré ?
Il est né 2 mois avant les autres enfants. Le que ce soit 9, c'est 7 mois et demi.
Oui, il est né.
Alors il faut bien le booster, bien l'accompagner, le soutenir surtout. Ouais, il faut du temps pour ces petits-là. Hein. Tu sais, au début, on pense que c'est rien, mais finalement, ça demande beaucoup d'affection. Beaucoup d'énergie à donner, en fait, finalement. On s'attend pas à ça. Hein. On était naïfs.
Mais parfois, il me fait rigoler, mais parfois, il m'embête. Ça m'énerve quand il m'embête.
Est-ce que tu auras envie de recommencer à prendre le train ?
Oui.
Là, on va partir.
Et vient où, ce train ? Il va devenir où ?
Il va à Lyon.
À Lyon.
France Culture, les pieds sur terre.
Où est-ce qu'on est ici, François ?
On est à Avenue Montaigne. Donc au croisement de l'Avenue Montaigne et François 1er. Et c'est là que je me suis fait arrêter le 27 janvier 2004. J'attendais un ami dans une cabine téléphonique. Et comme l'Avenue Montaigne est à sens unique, ça permettait d'avoir un visuel sur toute la rue. Et donc j'étais en cavale depuis 8 ans. Et donc j'ai repéré des agents de l'OCRB, donc c'est l'Office central du grand banditisme, qui observait mon ami.
Quoi ça se repère ?
Ça se repère par la dégaine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais dans le 8e arrondissement, puisque là on est en face de maison de mode assez connue. Disons que l'OCRB, ils sont plutôt en survêt avec des baskets ou jeans et blousons noirs. Les mecs ont des dégaines un petit peu de garde-corps face à une vitrine de magasin chic. C'est pas trop... Enfin voilà, ça se repère assez facilement. Donc c'était une manière de les démasquer. Et ça marchait. Et moi, j'étais caché dans une cabine téléphonique. Et ils m'ont pas repéré immédiatement. Et donc, j'ai essayé de m'éclipser en douce. Mais j'étais repéré. Donc, j'ai pris la poudre d'escampette et je me suis dirigé vers la rue François 1er. J'ai fait le coin avec la rue Bayard. Et j'ai réussi à me cacher dans une porte cochère. Puisque, en fait, j'avais des clés qui permettent de passer les portes cochères comme les clés des PTT en fait. Et donc je lui ai resté là pendant 20 minutes en me disant que j'étais paranoïaque, c'était pas finalement après 8 ans, je me disais c'est pas possible. Enfin, je comprenais pas qu'on m'arrête pas. Et en fait ils m'ont perdu. Et à partir du moment où je sors après une demi-heure de ma cache, je retombe sur notre patrouille. Et là il n'y a pas de doute possible, je sais que dans le jargon on dit que je suis détronché. C'est-à-dire qu'ils m'ont reconnu. Et la course-poursuite s'accélère. Donc là, on occupait de marcher vers la rue Bayard. Et puis, arrivé à la rue Bayard, ils repèrent ma trace. Je suis à pied. Et je me fonds dans la foule devant chez RTL. Je pense qu'il y avait les grosses têtes, l'enregistrement des grosses têtes ce jour-là. Et je me mets dans la file, donc je me planque. Et forcément, les gens avancent, mais j'ai pas d'invitation. L'agent de sécurité qui est à l'entrée me refuse l'entrée. Je me retrouve quasiment tout seul sur le trottoir. Et donc, je file dans le bar en face. C'est ma seule possibilité d'échapper à mes poursuivants. Alors je ne suis pas armé, je suis totalement pris au dépourvu. Et donc je me retrouve dans ce bar et je traverse le restaurant qui est fermé à cette heure-là, donc on l'a enfin l'après-midi. Et j'ouvre la porte qui donne sur la cuisine, l'arrière-cour, pour donner l'impression que j'ai fouillé par l'arrière. Et je me planque dans une petite réserve dans laquelle je trouve un escalier. Et donc, je monte dans un petit escalier de secours et j'arrive au dernier étage où il y a quatre portes. Et j'entends du bruit à l'extérieur. Donc, je frappe. Et là, il y a une dame qui vient ouvrir. Et je dis, moi, je suis de la police. Il y a un danger aux malfaiteurs dans le quartier. Je suis là pour vous protéger. Donc, elle m'accueille dans son appartement. Et bon, on ferme la porte et elle me fait un thé. Le temps passe. Il y a les forces de l'ordre évidemment qui viennent dans tout le quartier. Moi, je vais à la fenêtre, je vois évidemment l'homme du ménage, le GIGN qui se pointe. Donc, je me dis, ça, c'est mal parti. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Donc, je me dis, la seule planque possible, c'est rester là et faire le mort.
Il est où l'appartement en question?
Alors, c'est le dernier étage, juste en face d'RTL. Et donc, les fenêtres donnent sur la chaîne. Et donc, au bout d'un moment, elle voit une ombre. Elle voit un policier qui manifestement me cherche à l'arrière. Il la braque avec son arme. Donc elle hurle. Moi je me retourne, mais je suis à 15 mètres d'elle. Et elle file vers la porte de peur. Elle ouvre la porte, elle descend les escaliers, elle arrive en bas. Et là j'entends un remue-ménage et on lui dit bougez pas, bougez pas. Puis elle dit mais je suis avec votre collègue en haut. Et donc là évidemment, ben, y a un long silence. Et on a le cœur qui bat très vite. J'ai une foule de choses qui se passent. Je me dis bon ben voilà. Il y a 8 ans, je pense à mon petit garçon qui avait 6 ans à l'époque, avec qui je vivais quasiment tout le temps. Donc il y a vraiment ces images qui passent. Et je cherche encore, comme un animal, un échappatoire. Et je veux sauter, mais il y a 15 mètres pour accéder à l'autre, à l'arrière du bâtiment. Donc je me dis, je vais me fracasser, c'est quand même assez haut. Et puis au bout d'un moment, j'entends du bruit dans l'escalier, mais je me dis, ça va péter à l'aile, j'ai pas d'arme. Et à un moment donné, j'entends quelqu'un qui crie, jette ton arme, jette ta grenade. Et je comprends qu'ils ont cru que j'étais armé, que j'avais une grenade avenue Montaigne. C'était la raison pour laquelle ils m'ont pas arrêté. Il faut savoir aussi que dans le 8e arrondissement, ils peuvent pas tirer. Il y a beaucoup d'ambassades, il y a beaucoup de... C'est un quartier sensible, donc ils voulaient me rabattre ailleurs. Et donc, mais j'avais pas d'arme, donc je me dis, je vais me faire allumer. Donc, et là, j'ai une idée, j'ouvre la fenêtre avec un manche à brosse pour ne pas me faire allumer par la fenêtre. Il faut savoir que toute la rue est bloquée, il y a des tireurs d'élite, etc. Et c'est un journaliste d'RTL qui me fait signe et je lui dis j'ai pas d'arme. Et lui fait le lien avec le bas et leur dit voilà je suis en visuel, il a pas d'arme. Et donc ça dure encore un long moment. Puis bah, après de longues palabres, il y a finalement des agents du GIGN qui sont venus et qui m'ont interpellé. Enfin, je me souviens de rien puisque je me suis réveillé sur les Champs-Élysées, puisque j'ai reçu sans doute quelques coups sur la tête. Et puis voilà, donc le soir même, je dormais ce qu'on appelle la souricière, et puis je me suis trouvé à la prison de la santé. Voilà. En fait, donc moi je suis belge et j'étais en cavale depuis 96 pour plusieurs séries d'attaques de fourgons. Et la chose la plus grave, j'avais eu une fusillade avec la police judiciaire belge et lors de cette fusillade, j'ai blessé un policier d'une balle dans la jambe. Et donc je suis parti en cavale d'abord en Amérique du Sud, avant de revenir sur la Corse, l'Espagne, le Maroc, un petit peu les pays de l'Est. Et finalement, je suis revenu en France, puisque ma couverture, j'étais scénariste dans le cinéma. Donc voilà, donc je suis né dans une famille plutôt artiste. J'ai un père qui est chanteur d'opéra, une mère qui est prof. Une famille nombreuse, et des parents un petit peu anarchistes, pro-écolo. Donc j'ai quand même fait des études artistiques, puisque je me destinais à être... à la base, je voulais être trompettiste. Voilà, j'ai fait pendant pas mal d'années de la musique. En même parallèlement à ça, je faisais les arts graphiques. Et puis, j'ai eu une proposition de travailler dans la sécurité. Et ça m'a donné l'envie, ou l'idée plutôt de... Je dis pourquoi pas. Et on m'a proposé de faire un stage de protection rapprochée. Et je me suis essayé au tir. Et il se fait que j'étais doué puisque j'ai gagné des concours. Et donc, suite à ce parcours-là, j'ai été reçu et promu. Et on m'a proposé de travailler dans la sécurité rapprochée. Alors, je trouvais ça très, très intéressant puisqu'on voyage, on vit dans un milieu assez luxueux, des beaux hôtels, on voyage en jet privé. Donc à 22 ans, enfin, 21 ans exactement, bah, c'est un peu le rêve. Puis un jour, j'ai eu la chance de travailler pour un industriel qui était le manager de l'année. Et donc en fait, j'ai assisté à ce que je considérais comme une faillite frauduleuse. Mon patron s'est retrouvé en prison et moi, j'ai perdu ma place. Donc je retournais aux études quand on a goûté à la vie professionnelle, ben, c'est pas évident. Et j'ai fomenté l'idée de me faire engager comme transporteur. Donc ce que j'ai pu faire, j'ai passé les concours, j'étais admis. Et au bout de 6 mois, je disparaissais avec le contenu d'un fourgon.
Il y avait combien d'argent ?
Il y a pas mal d'argent, l'équivalent de 2 500 000 euros. Et donc, en arrivant là, en prison, j'ai pris conscience quand même de ce que c'était comme univers. J'avais jamais eu les pieds là-dedans. Donc, tout de suite, il y a un sentiment de... On a envie de tout arrêter, de revenir en arrière. Et on dit, ben, finalement, c'est bon, les gars, j'ai compris. Je vais me ranger. Je ferai ce que vous voulez, mais ça se passe pas comme ça. Et on vous laisse croupir pendant 15 jours dans un trou. Et une fois qu'on a passé ce stade-là, ben, la porte s'ouvre et puis vous allez à la promenade et puis on rencontre des gars qui vous disent « Ah bon, c'est toi ?» Et puis ils sont intéressés forcément puisque je connaissais les tournées, je connaissais pas mal de choses, j'étais expert en armes. Et donc l'idée, c'était pas de me réinsérer, c'était justement de faire mieux en sortant. J'étais libéré 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard. Donc au lieu de me réinsérer, au lieu de... Bah là, je me mets à 100% en mode gangster. Et je vois les fourgons comme des transports comme des tirelires ambulantes. On les appelle d'ailleurs dans le jargon, on appelle ça des cochons ou des haloufs en arabe. Puisque bah, ça symbolise le petit cochon. Et il suffit d'avoir un bon marteau pour taper dessus et ouvrir ce qu'il y a dedans. Après, il y a une part de rêve, c'est un petit peu comme un loto. Si on peut attraper un bon fourgon, bah, ça permet de se réaliser dans nos rêves. Alors le rêve personnel, c'était faire la musique, écrire, faire l'artistique et être mon propre mécène. Ça, c'est dans l'absolu. Et prendre ce qu'on m'avait pas donné, quoi. La chance, entre guillemets, je suis pas né dans une famille fortunée, éduqué mais pas fortuné. Et je me disais, ben voilà, c'est le moyen d'être libre, en tout cas, et de faire ce que j'avais envie. Et puis, ben, on rentre dans une espèce de cercle vicieux, c'est qu'on en fait un, on dépense très vite l'argent, puisqu'on vit sur un mode... Rockstar. Donc on se dit bah super, on fait la fête, on part tout de suite à l'étranger, on passe des nuits dans des hôtels majestueux, dans le jargon on fait péter la thune, quoi. Voilà. Et puis on recommence. Le problème, c'est que le deuxième fourgon, ça se passe pas aussi bien. Et le convoyeur, ce jour-là, il a envie de jouer au héros, donc il tire. On manque de se faire allumer, on est obligé de riposter. Heureusement, on ne blesse personne, mais on se dit quand même que là, on est passé à 2 doigts, donc il vaut mieux peaufiner les choses. Et donc, au lieu d'arrêter, ben,
on perfectionne.
On perfectionne, voilà.
C'est un défi personnel, du coup, on perd pied avec la réalité.
Oui, on perd pied avec la réalité, et puis ça devient presque un métier. Voilà, ça devient une... C'est une... Et puis c'est assez facile. Vu que, enfin, c'est quelque chose de difficile parce que les gens ne se rendent pas compte. Souvent, on me dit, bah, finalement, c'était facile. Mais ce n'est pas facile. Si on n'a pas... on doit spécialiser. C'est une... Il faut de la méthodologie. Il faut une certaine... il faut être rigoureux. En fait, c'est exactement le même travail que de monter une entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, si j'avais mis la même énergie dans une entreprise, j'aurais pu être peut-être... beaucoup plus riche et j'aurais fondé quelque chose de durable.
Et l'argent, vous le placiez à chaque fois après ?
Alors moi, j'avais une technique assez... Je faisais 3/3. Je faisais 1/3 pour les frais en cas où ça se passe mal. Donc avocat, prison. 1/3 à dépenser tout de suite. Il y a 1/4 qu'on peut placer et investir.
Elle a duré combien de temps, cette vie ?
Alors j'ai commencé en 93... jusqu'en 2004.
Et pour combien d'années de prison, finalement ?
Pour 10 ans de prison. Donc finalement, un an par année de banditisme.
Vous regrettez ou pas ?
Je regrette certaines choses. D'avoir fait usage de mon arme, d'avoir blessé un policier. Je ne suis vraiment pas fier. Après, je ne regrette pas cette vie. J'assume. J'ai le sentiment qu'elle m'a permis d'être autre chose, d'avoir un cheminement personnel, et je pense que je devais passer par là. Après, moi, je crois au karma, je crois au destin, et je me dis que voilà, la vie a fait que vraiment, j'aurais jamais pu penser que je me retrouverais un jour dans le grand banditisme. Et puis après, il y a les années de prison et l'envie de changer aussi de vie, quoi, puisque c'est pas une vie en soi, c'est une folie, c'est une fuite en avant. Et puis aussi une prise de conscience que bah, la société, bah, c'est vous, c'est moi. Que s'attaquer à la société avec un flingue, c'est pas la meilleure des solutions. Et qu'on va faire beaucoup plus avec une plume ou avec un reportage radio parfois. Donc moi j'ai vraiment eu envie de changer. Quand je suis arrivé à la prison de la santé, donc après mon arrestation ici, rue Bayard, j'ai pris vraiment le temps de réfléchir, de me dire, moi voilà, qu'est-ce que tu fais ? J'avais 3 choix, c'était un de m'évader. Me suicider ou accepter, puisque bah, j'avais une peine en Belgique de 28 ans plus cumulable à une autre peine pour avoir blessé un policier, donc je me voyais au moins 20 ans derrière les barreaux. J'avais un petit garçon qui avait 5 ans et demi, une compagne, voilà, une vie que j'avais envie de poursuivre. Voilà, j'étais à un croisement de route, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'il est possible de m'en sortir ? Et c'est en discutant avec plusieurs personnes que je suis arrivé au... Il y avait une possibilité. Il y avait une possibilité, mais le...
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 34 ans. Et les peines étaient immenses, mais en même temps, je pouvais faire appel. Et je me suis dit, si je me change personnellement, ça va se ressentir. Et le seul moyen, c'était l'étude. Et ce qui s'est passé en fait à la prison de la santé, ce qui m'a vraiment fait changer aussi, c'est qu'on est venu me chercher dans ma cellule en me proposant de faire une licence en lettres à la Sorbonne, qui permet de faire des cours universitaires tout en étant détenu. Et ça m'a ouvert l'esprit, des perspectives, l'envie de revenir dans une vie normale, d'apprendre et de me construire et de ne pas perdre mon temps. Parce que la prison, je voulais l'accepter à une condition de ne pas perdre mon temps. Et j'étais convaincu que si je travaillais pour obtenir ce diplôme avec des difficultés, puisque ce n'était pas évident d'étudier dans une cellule, que mon mérite serait récompensé. C'est-à-dire qu'on les gens pouvaient percevoir le travail, donc l'introspection, le travail personnel que j'avais fait sur moi pour changer, pour être quelqu'un d'autre. Parce que j'avais vraiment envie de radicalement changer de vie. Il faut savoir aussi qu'avant de me faire arrêter ici, donc j'ai braqué des fourgons jusqu'en 2002-2003, et j'ai commencé à décrocher quand j'ai tiré sur le policier. Donc c'était le moment le plus compliqué de ma vie à gérer, Et là, je me suis dit, ok, maintenant, t'es passé un cap, tu vas tuer. La prochaine fois, tu tues. Et donc, c'est pour ça que j'étais pas armé à Paris. Donc, je suis parti, je l'avais dit, en Amérique du Sud. Et puis, petit à petit, ben, mon petit garçon me manquait. Donc, l'Europe me manquait. Après quelques années passées très loin, je suis revenu petit à petit en Europe. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai monté une société de... J'ai dit que j'étais scénariste et j'ai monté une société d'édition. Et je disais que je faisais de la bande dessinée.
Pour de vrai ?
Ouais, pour de vrai. Donc je publiais des bandes dessinées. Et
que vous dessiniez ?
Alors que je dessinais, que j'écrivais. Et j'ai publié des autres auteurs. Donc j'ai fait aussi ce qu'on appelle du para-BD. C'est-à-dire je revendais des affiches et des dessins originaux d'artistes. Et je suis rentré dans le milieu artistique de la bande dessinée et j'en vivais. Donc un an avant de me faire arrêter, j'étais vraiment déjà réinséré. Et ma fausse vie était devenue ma vraie vie. Finalement, l'arrestation a été un soulagement aussi puisque c'était une manière de dire tiens, je vais essayer de repartir à zéro. Et ça a payé.
C'était Fugue et Évasion, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Perret Legras avec un coup de main de Cécile Lafont et diffusé pour la première fois le 8 octobre 2014. Depuis François Troukens, le braqueur fugitif est devenu cinéaste, auteur, réalisateur, animateur de radio. Bref, une célébrité. C'est Jeanne Copet qui est aussi une célébrité, qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Justine Calais, notre stagiaire, nous avons aussi avec nous toute cette semaine, Manuel Véret, stagiaire de 3e.
Nick.